La mort de l'agneau, étude numéro 242. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas pleinement ce qui arrive au cours de la période de la Pâque, et le moment et la signification de la mort du Messie en tant que l'agneau de Dieu. Cette étude fournira une meilleure compréhension de la séquence entière. Nous avons examiné le moment de la crucifixion et de la résurrection dans l'étude « Le moment de la crucifixion et de la résurrection » numéro 159. La Pâque est examinée dans l'étude « La Pâque » numéro 98 et elle est divisée dans ses parties constitutives dans l'explication du dîner du Seigneur, dans les études « La signification du lavement des pieds » numéro 99, « La signification du pain et du vin » numéro 100 et « Le dîner du Seigneur » numéro 103. Nous savons que la Pâque est une ordonnance commandée du Seigneur et qu'elle a été observée par Israël telle que commandée dans la Bible, et ce, jusqu'à la fin de la période du Temple, en l'année 70 de l'ère courante. Nous comprenons ce qui est arrivé au dîner du Seigneur, et nous savons que cette activité s'est produite la nuit du 14 Nissan, avant l'arrestation et le procès du Messie, et sa crucifixion subséquente. Chaque activité dans la séquence de cette Pâque a été faite conformément au plan parfait de Dieu, et à ses lois, et son calendrier. Christ n'a pas été crucifié un vendredi et il n'a pas été ressuscité un dimanche, comme le prétend habituellement le christianisme dominant. Les origines païennes des Pâques, Easter, et la transition de la Pâque à ce festival des Pâques Easter sont examinées en détail dans l'étude des origines de Noël et des Pâques Easter, numéro 235. Aussi, les Juifs n'étaient pas dans l'erreur à propos du temps, et Christ n'a pas été tué au mauvais moment. Il a été tué exactement au moment où le premier agneau de la Pâque a été tué sur le mont du Temple, conformément à l'ordonnance publiée sur l'ordre de Dieu. Nous connaissons par cœur les activités et le service du dernier repas que le Seigneur a donné en tant que dîner du Seigneur. Nous savons que c'est un des deux seuls sacrements de l'Église, voire l'étude des sacrements de l'Église numéro 150. L'autre sacrement est le baptême. Voir l'étude Repentir et baptême numéro 52. Ce qui n'est pas non plus bien compris, c'est le temps et les raisons derrière la mort du Messie en tant que l'agneau de Dieu. Les ordonnances de la Pâque. Nous lisons dans Lévitique 23, à partir du verset 4 à 14. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épi rôti ou broyé jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Version 8 secondes. Nous voyons que cette ordonnance est divisée dans les parties constitutives suivantes. Premier point, 14 Nissan, quand la Pâque est sacrifiée. Deuxième point, la fête des pains sans levain, qui est du 15 Nissan au 21 Nissan, et durant laquelle aucun pain avec levain ne peut être consommé. Troisième point, autant le 15e jour que le 21e jour du premier mois, appelé Nissan ou Abib, Abib ou Aviv, signifie printemps, c'est-à-dire que Tel Aviv est la colline du printemps, sont des convocations saintes, et aucun travail n'est permis ces jours-là. Quatrième point, l'offrande de la gerbe agitée doit être faite le jour après le sabbat, et un agneau sans défaut doit être sacrifié avec cette offrande du premier fruit. Elle était traditionnellement agitée à la troisième heure ou 9 heures, le dimanche matin, après le sabbat hebdomadaire pendant la fête des pains sans levain. Ce dimanche commence aussi le calcul jusqu'à la Pentecôte, comme nous l'avons vu dans les études sur la Pentecôte. Voir l'étude Le Conte de l'Homère jusqu'à la Pentecôte, numéro 173. Schurer est silencieux à propos de cette offrande. Il y a un certain nombre de sous-ordonnances qui régissent la Pâque et qui mettent en lumière les activités du Messie et des apôtres à la Pâque de l'année 30 de la courante, qui a été le jour de sa mort. La Pâque devait être observée de la façon suivante. L'ordonnance originale commandait que le repas soit mangé avec des herbes amères le soir, après le sacrifice de l'après-midi du 14 Nissan, c'est-à-dire le soir du 15 Nissan. C'était à l'origine un agneau tué en Égypte et le sang a été aspergé sur les montants de portes ou les linteaux pour que l'ange de la mort passe au-dessus des maisons des enfants d'Israël. De cette façon, les premiers-nés de l'Égypte ont été tués, mais l'ange a passé au-dessus des enfants d'Israël, de là le terme « Passover » en anglais, qui signifie « passer au-dessus ». De cette façon, Dieu a montré ce qu'il ferait avec le monde et que le salut devait venir par la mort du Messie en tant que l'agneau de Dieu, permettant ainsi l'entrée à la famille de Dieu comme une partie de la nation d'Israël. Le sacrifice est ordonné dans Exode. Nous lisons dans Exode chapitre 12, versets 1 à 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, « Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. » Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux, et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point, à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel, vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Version Louis Sauveur. Cet agneau de Pâques ou bouc a dû être tué par l'assemblée entière de la congrégation d'Israël. Il a été choisi le 10e jour et tué le 14e jour. Il a été mangé la nuit du 15e jour du premier mois. Cela devait être observé perpétuellement comme une soirée mémorable. Quand l'ange de la mort a parcouru le pays à minuit, le 15 Nissan, il a tué les premiers-nés de l'Égypte, du fils de Pharaon, aux captifs dans les donjons. Nous lisons dans Exode chapitre 12, versets 29 à 36. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient « Nous périrons tous ». Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Version 8 secondes. Il a été ordonné d'observer cette soirée comme un mémorial qu'Israël a été épargné. Cette activité représentait aussi le salut du monde à travers le sacrifice du Messie. Exode 12, verset 42, nous lisons « Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. » Version 8 secondes. L'ordonnance a été changée après la première Pâque, et ce de la façon suivante. Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 16, versets 1 à 8. « Observe le mois des épis, et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours, et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure, mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil à l'époque de ta sortie d'Égypte. Tu feras cuire la victime et tu la mangeras dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu, et le matin tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Version 8 secondes. Nous voyons ici que l'ordonnance a été changée. Dans la première Pâque, elle a été célébrée dans les maisons en Égypte et personne n'a été autorisé à sortir. Ainsi, la maison a été protégée par le sang sur les montants de portes ou les linteaux. De cette façon, on montrait aux élus qu'ils étaient protégés alors qu'ils étaient dans une terre étrangère, des activités de l'ange de la mort qui était le Messie lui-même dans son rôle de juge de la terre. Pour se qualifier pour ce rôle, il a dû démontrer qu'il était prêt à donner sa propre vie pour le monde entier qu'il devait juger. Ce symbolisme a été retrouvé dans l'occupation d'Israël, quand Josué et les tribus ont occupé la terre promise. Le fil rouge sur les linteaux de la maison de Rahab, sur le mur de Jéricho, symbolisait ce passage, au-dessus de l'ange de la mort, qui s'est présenté à Josué comme le capitaine de l'armée du Seigneur. Voir l'étude de la chute de Jéricho numéro 142. Quand Israël a pris possession de son héritage et de ses terres, ils ont ensuite reçu l'ordre d'observer la Pâque à l'extérieur de leur maison.
Ils étaient autorisés à retourner à leur logement approprié seulement le matin du premier jour des pains sans levain.
Aussi, n'importe quel animal pur du troupeau peut être tué depuis ce temps. Cependant, la Pâque a toujours été symbolisée par l'agneau et il a été l'animal le plus commun et accepté pour le repas.
La Sansino cite Abraham Ibn Ezra qui dit qu'ils peuvent retourner à leur logement provisoire, mais pas à leur domicile permanent.
Nous pouvons commencer à voir dans la Pâque une partie du symbolisme et le sens du moment et des activités de Jésus-Christ à la Pâque quand il a été crucifié. Nous savons, au-delà du doute, quand les agneaux étaient tués pendant la période du temple. Josephus montre que les agneaux étaient tués de la 9e heure à la 11e heure, c'est-à-dire de 15h à 17h l'après-midi du 14e jour. Les agneaux étaient ensuite préparés et mangés le soir du 15 Nissan comme repas de la Pâque. Josephus parle d'une Pâque dans le règne de Néron ou Néron. Nous lisons « Ainsi, ces souverains sacrificateurs, à l'arrivée de leur fête, qu'ils appellent la Pâque, quand ils abattent leur sacrifice de la 9e heure à la 11e heure, chaque sacrifice servant à un groupe de 10 au moins, entre parenthèses car il ne leur est pas permis de festoyer seuls, et beaucoup d'entre nous sont 20 dans un groupe, ont constaté que le nombre de sacrifices était 256 500. Ce qui, si on assume que pas plus que 10 personnes faites ensemble, correspond à 2 700 200 personnes. Voir l'ouvrage donc de Josephus, La guerre des Juifs, section 50, 6, 9 et 3. Cependant, il y avait seulement un agneau, le premier abattu à 15 heures, qui était mis devant le souverain sacrificateur comme la Pâque. Nous obtenons ainsi une idée de la signification derrière la séquence des événements du 14 Nissan quand il est mort. La tradition de la Pâque était aussi différente. En Judée, les gens travaillaient jusqu'à midi, le 14 Nissan, mais en Galilée, ils ne travaillaient pas du tout ce jour-là. Voir Schurer, dans son ouvrage « L'histoire des Juifs à l'époque de Jésus-Christ », volume 2, page 14. Cette interdiction de travailler à la Pâque est à cause des activités exigées le 14 Nissan, d'après Deutéronome 16, versets 5 à 7. En Galilée, d'où Christ est venu, les gens faisaient ce que Christ et les apôtres ont fait le jour du sacrifice de la Pâque. Ils allaient dans une habitation provisoire et ils tuaient et mangeaient la Pâque. En Judée, qui était à toute fin pratique un territoire séparé, comme nous le voyons d'après les lois dans la Mishnah au sujet des femmes et de la propriété, voir les révérences dans la Mishnah, voir Schurer, le même ouvrage. Ils ont semblé s'être relâchés dans cette pratique, probablement à cause de leur proximité du temple, et possiblement à cause du très grand volume de travail exigé à Jérusalem par les sacrifices cet après-midi-là. Néanmoins, le Messie et les apôtres sont allés à une habitation provisoire, comme c'est exigé dans l'ordonnance à Deutéronome chapitre 16, versets 5 à 7. L'agneau de Dieu. Le Messie est identifié comme l'agneau de Dieu. Nous lisons dans Jean 1, versets 29 à 37, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Version Louis II. Jean déclare ici la préexistence de Jésus. Jean le Baptiste est né avant Jésus-Christ. Cependant, il dit que Christ l'a précédé parce qu'il était avant lui. Ce texte suit la section dans Jean, chapitre 1, verset 18, où nous voyons que le Messie a été le seul Dieu engendré, seul né, du grec monogenes theos, qui est dans le sein du Père. Il révèle ou déclare, voire le Nouveau Testament, littéral, concordant, et aussi l'interlinéaire RSV grec-anglais de Marchand. L'apôtre Jean affirme également ici que le monde a été fait par Christ, voir Jean 1, verset 10. Comme la parole, il est devenu chair et il a habité avec nous. Cette expression du logos était connue comme le memra dans la Judée antique. Son statut était comme l'agneau de Dieu enlevant les péchés du monde. La signification de l'agneau apparaît à maintes reprises dans les sacrifices comme offrande pour le péché, la paix et d'autres choses. Le changement de l'idée maîtresse de l'agneau dans la prophétie vient d'Ésaïe, chapitre 16, verset 1 à 5. Ce texte parle de l'agneau. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 16, verset 1 à 5. « Envoyez les agneaux au souverain du pays. Envoyez-les de celle-là, par le désert, à la montagne de la fille de Sion. Tel un oiseau fugitif, tel une nichée effarouchée, telles seront les filles de Moab au passage de l'Arnon. Donne conseil, fais justice. » Couvre-nous en plein midi de ton ombre comme de la nuit. Cache ce que l'on poursuit. Ne trahis pas le fugitif. Laisse séjourner chez toi les exilés de Moab. Sois pour eux un refuge contre le dévastateur. Car l'oppression cessera, la dévastation finira, celui qui foule le pays disparaîtra, et le trône s'affermira par la clémence, et l'on y verra siéger fidèlement dans la maison de David un juge, ami du droit et zélé pour la justice. Version Louis II. La version Louis II dit les agneaux, mais selon la King James Version, il s'agirait des agneaux payés en tribu.
Voir la Companion Bible.
L'agneau de tribu a été baptisé au Jourdain, de l'autre côté de Jéricho. Billinger dit que le dirigeant du territoire est Juda. L'agneau est envoyé comme Meshka, le roi de Moab, avait fait. Voir 2 Rois, chapitre 3, verset 4. Cela a été identifié comme Petra dans le mont Seir, près du mont Hor. Voir 2 Rois, chapitre 14, verset 7. Le texte est utilisé pour indiquer que les disciples de l'agneau demeureront avec Moab, à qui on demande de les cacher de la face du dévastateur qui est identifié à Sankhérib. Mais Ésaïe 14 parle en réalité du porteur de lumière au Lucifer de l'armée déchue. Le verset 5 parle d'établir le trône dans le tabernacle de la justice. Ce texte parle de la conversion des païens et des filles de Moab qui sont comme chassées du nid ou abandonnées au gué de l'Arnon. Les personnes ont ici la tâche de cacher les disciples du Messie parmi les païens, et elles sont jugées de la sorte. Ce texte forme une base pour la parabole des brebis et des boucs donnée dans Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Ésaïe le développe dans le chapitre 53. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 53, versets 1 à 12. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulture parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Version Louis II. Cet homme de douleur a été blessé pour nos transgressions. Comme brebis, nous nous sommes égarés, et le Seigneur a mis sur lui toutes nos iniquités. Ce texte nous montre pourquoi certaines choses sont arrivées ainsi, la nuit du procès du Messie. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été mené comme un agneau à la boucherie, et comme une brebis devant ceux qui l'attendent. Il est resté muet, il n'a pas ouvert la bouche. Ainsi, il a dû être appréhendé, jugé, et ensuite exécuté conformément à cette prophétie, puisque l'Écriture ne pouvait pas être anéantie. Entre parenthèses, répété à Actes, chapitre 8, verset 32 à 33, voir aussi Jean, chapitre 1, verset 36. Le terme « mis », son sépulcre parmi les méchants, est en fait « Nathan », comme désigné. Il conserve ce sens où il est utilisé. Ainsi, la tombe a été désignée comme étant avec les pécheurs et avec les riches, comme nous le voyons après la crucifixion. Le verset 5 est en réalité transpercé pour nos transgressions, faisant allusion au coup de lance dans son côté. Il a été blessé pour nos iniquités, et le châtiment pour notre paix était sur lui. Nous sommes guéris par ses meurtrissures. Ce dernier verset est répété à 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Cette question du châtiment pour notre paix est intéressante. Le judaïsme rabbinique explique ainsi la question entière d'Ésaïe 53, verset 1 à 9. Les Babyloniens ou leurs représentants qui ont connu le serviteur exilé, Israël, dans son humiliation et martyre, et qui voient maintenant son exaltation et sa nouvelle dignité, décrivent leurs impressions et sentiments en voyant le serviteur, voire la Sonsino citant Ibn Caspi. C'est en réalité la vraie explication étant donné que le Messie est l'Israël exilé et Israël est le corps de Jésus-Christ. Ce simple fait n'est pas compris par le judaïsme rabbinique, bien qu'il puisse voir que le serviteur a été affligé et a souffert pour les transgressions des autres. Il soutenait que le serviteur a souffert afin qu'il soit guéri, voire Sonsino verset 5, afin que nous puissions obtenir le bien-être, celui-ci ayant été puni pour notre culpabilité. Voir Sonsino, voir Rashi et Kimchi. Ils essaient de prétendre que dans la captivité babylonienne, Judas était l'Israël qui était le serviteur de Dieu, alors que cela se réfère indubitablement au serviteur de Dieu dans un rôle expiatoire. Dieu a puni Judas pour ses transgressions en utilisant les Babyloniens comme son instrument. Il n'était pas innocent. Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 6 est compris de façon rabbinique comme la reconnaissance que les souffrances du serviteur n'étaient pas en raison de ses péchés secrets. Il est maintenant clairement reconnu qu'il était la victime qui a porté les sinistres pénalités encourues par les iniquités des autres. Voir Sonsino, note versets 4 à 6. Rashi et Kimchi soutiennent que les termes « nos maladies » qu'on retrouve au verset 4 sont les maladies qui auraient dû avoir été infligées sur nous et que le terme « a vraiment porté » signifie qu'il a été appelé à les subir. Voir Sonsino. Ils ont compris que les gens avaient erré comme des brebis et abandonné le leadership de Dieu en suivant leur fausse religion. Voir Sonsino, note au verset 6 et Arbarbanel. La compréhension que les païens du système babylonien sont sauvés par la souffrance du Messie, qui est en fait l'Israël de Dieu, est aussi le thème général de la Bible et particulièrement du livre de l'Apocalypse. La question entière a été traitée en détail dans les études de la doctrine du péché originelle, partie 1, le Jardin d'Éden, numéro 246, et la doctrine du péché originelle, partie 2, les générations d'Adam, numéro 248, et le problème du mal. Le procès du Messie. Le Messie a été arrêté suite à une charge inventée par le sacerdoce, et le Sanhédrin a été utilisé à ce procès, car il était nécessaire qu'un minimum de 23 membres soient présents pour une charge impliquant la peine capitale. Jésus a été emmené devant Anne pour une audience préliminaire pour établir le bien fondé des raisons pour convoquer le Sanhédrin. Cela, bien sûr, avait déjà été décidé, mais c'était nécessaire pour leur processus juridique, de la même manière qu'il le serait pour le nôtre. Nous lisons dans Jean chapitre 18, versets 12 à 14. La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Version 8 secondes. Les détails à propos du sacerdoce et les dates et les temps sont tous contenus dans les études Le Moment de la Crucifixion et de la Résurrection, numéro 159. Et Golgotha, le lieu du crâne, numéro 217, et les autres études sur la Pâque. Cette relation est celle du souverain sacrificateur et du député souverain sacrificateur, bien que le judaïsme essaie de placer l'utilisation de la relation, Nassi, à un temps légèrement ultérieur. Bullinger est de l'avis qu'Anne avait été destituée en l'année 779 AUC, l'année que le ministère du Messie a commencé. Trois autres avaient été destitués et promus avant que Caïphe soit nommé par Valerius Gratus. Bullinger pense qu'Anne serait plus expérimentée dans la loi pour formuler une charge contre lui. C'était en réalité une audience préliminaire. Schurer soutient que Caïphe a été nommé par Valerius Gratus, entre parenthèses 15 à 26 de la Courante, vers 18 de la Courante, et qu'il a régné de 18 à 36 de la Courante. Ananaos, le fils de Séti, avait été nommé par Quirinius en l'an 6 de la Courante, et a régné de l'année 6 à l'année 15 de la Courante. Les trois souverains sacrificateurs intermédiaires mentionnés par Bullinger sont, sans aucun doute, Ismaël, le fils de Phiabi, vers 15 à 16 de la Courante, Éléazar, le fils d'Ananaus, vers 16 et 17 de la Courante, et Simon, le fils de Camitus, vers 17 et 18 de la Courante, tous nommés par Gratus. Voir Josephus, les Antiquités des Juifs, référence 50, section 18, 2 et 2. Voir Schurer, volume 2, pages 216 et 230. Schurer traite de la question de Nassi et du Abbeth Din et soutient que ce n'est arrivé que plus tard. Il considère que le terme Nassi se réfère au chef d'État jusqu'à la compilation du Mishnah. Il se peut très bien que le terme n'ait pas été appliqué délibérément à la famille d'Hérode et qu'il s'appliquait au souverain sacrificateur étant donné que le territoire était divisé selon le registre du Mishnah. Juda et la Galilée ont été considérés comme des pays séparés, comme nous le voyons ci-dessus. Les activités dans Jean concernant la peine capitale et les procédures du Sanhédrin doivent être conformes à la loi. En conséquence, la fonction d'Anne semble être comme Abbeth-Din, ou député président du Sanhédrin, agissant comme le magistrat traduisant en justice. Un des disciples est entré avec le Messie dans le palais du souverain sacrificateur. Nous lisons dans Jean chapitre 18, versets 15 à 18, Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière, et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Version Louis II. Il a conduit Pierre dans le palais et la femme à la porte l'a accusé d'être un des disciples de Christ. Entre parenthèses, les femmes portiers n'étaient pas rares. Voir 2 Samuel 4 verset 6 dans la Septante et Actes 12 verset 13. Puis suit le premier démenti de Pierre. L'autre disciple n'a pas été défié, mais semble avoir été connu, puisque le terme a aussi été utilisé à propos de Pierre, indiquant que c'était ainsi. Cela n'aurait pas été Jean, car il s'appelait toujours lui-même le disciple que Jésus aimait. Voir Jean 13, verset 23, Jean 19, verset 26, Jean 21, verset 7 et verset 20. Le disciple était probablement Nicodème ou Joseph d'Arimathée, les deux étant membres du Sanhédrin. Voir Bullinger, la Companion Bible, note au verset 15. Les termes au verset 18 sont littéralement les esclaves et les députés pour les serviteurs et les huissiers. Le chiliarque et les soldats romains étaient retournés à la forteresse Antonia, laissant ainsi le Messie entre les mains des Juifs. Dans l'accomplissement d'Ésaïe chapitre 53, nous voyons maintenant le début de l'infliction de la souffrance et des indignités. Nous lisons dans Jean chapitre 18, verset 19 à 24. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent. Et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge sur ce que je leur ai dit ceux qui m'ont entendu. » Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Version Louis II. Il est écrit, « Tu n'insulteras pas l'Élohim ou ne maudiras pas ou dira du mal le dirigeant de ton peuple. Voir Exode 22, verset 28, Ecclésiaste 10, verset 20, Actes 23, verset 5, 2 Pierre 2, verset 10, Jude 8, et aussi Jacques 4, verset 3, du grec kakos, comme dire du mal avec une mauvaise intention. En conséquence, on ne doit pas parler en mal du souverain sacrificateur. Cependant, Christ réfutait ici la charge qu'il avait enfreint la loi. Il a réfuté le péché qui lui était attribué, puisqu'il était sans péché. La prophétie déclare qu'il n'a pas ouvert la bouche, ou qu'il est resté muet, comme une brebis devant ceux qui l'attendent, et cela a été accompli par son attitude devant Pilate. Ainsi, il ne s'est pas défendu, mais il a clairement donné quelques réponses. Est-ce que c'est une contradiction? Non, ça ne l'est pas. Les réponses qu'il a données et qui niaient en fait les charges d'avoir transgressé la loi ont fourni un bon exemple du comportement à avoir devant l'autorité. S'il n'avait pas répondu du tout, cela aurait été pire. L'exemple pour l'histoire aurait effectivement détruit l'ordre social parmi les groupes de chrétiens lorsqu'ils sont traduits devant le processus juridique. Les évangiles ont dû donner l'exemple conformément à la loi biblique. Anne avait suivi les procédures en préparant une charge et en le traduisant en justice devant le Sanhédrin, puis il l'a envoyé au souverain sacrificateur du temps, qui est Joseph Caïphe. Pierre a de nouveau été mis à l'épreuve. Nous lisons dans Jean 18, versets 25 à 27, Simon-Pierre était là
et se chauffait.
On lui dit, « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples ?» Il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Version 8 secondes. Pierre nie ici toute association avec Christ, comme Christ l'avait prédit, et ensuite le coq a chanté, marquant la fin de ce test direct.
Nous devrions tous en tirer des leçons.
Lorsque nous examinons les épreuves de l'Église et de nos frères, et l'appui que nous donnons, ou non, l'un l'autre. Pendant le procès, nous voyons que les détails sont omis dans l'évangile de Jean, entre l'action à Jean, chapitre 18, verset 27, et la continuation de l'histoire au verset 28. L'histoire de cet intermède est dans Matthieu, chapitre 26, verset 58, à Matthieu 27, verset 2. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 26, verset 58 à 75. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes disposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble ?» Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, « Christ, prophétise. Dis-nous qui t'a frappé. » Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Version Louis II. Après le procès et la fin de l'épreuve de Pierre, nous voyons la suite des événements dans Matthieu chapitre 27, versets 1 à 2 et à Jean chapitre 18, verset 28. Matthieu chapitre 27, versets 1 à 2, nous lisons. « Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. » Version Louis II. Jean nous montre qu'ils n'ont pas voulu être souillés en ayant un contact avec les païens, car les pharisiens, même alors, avaient permis à leur tradition de détruire la compréhension de la loi. Nous lisons dans Jean, chapitre 18, versets 28 à 40. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller, et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux, et dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplît la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?»« Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? » Alors de nouveau tous s'écrièrent, « Non, pas lui, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Version Louis II. Cette section est une des paraboles les plus puissantes de la Bible. Conformément à l'Écriture, nous voyons ici le Messie, en tant que roi, être jugé pour les péchés du peuple par le chef des païens ayant été illégalement condamné à mort par Judas et le Sanhédrin qui agissait sur l'ordre des pharisiens et de la classe dirigeante. Ils ont été jugés ici. Il est écrit, « Tu ne porteras pas de faux témoignages et tu ne pervertiras pas le jugement. » Nous lisons dans Exode chapitre 23, verset 1 à 9.
« Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Tu ne porteras point atteinte aux droits du pauvre dans son procès. Tu ne prononceras point de sentence inique et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. » Version Louis II. La punition de la perversion de la justice consiste à se faire enlever le jugement, et c'est ce qui est arrivé au Sanhédrin. Le jugement leur a été retiré et donné à l'Église. Il a été aussi pris et donné à la nation qui démontrait les fruits, comme Christ a dit plus tard, et cette nation semble être Israël plutôt que Juda. Nous lisons dans Lévitique chapitre 19, versets 15 à 16, « Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. » et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Version 8 secondes. Le jugement doit être établi avec justice dans le pays. Nous lisons dans Deutéronome 16, versets 18 à 20, « Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence des personnes, et tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras ponctuellement la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Version 8 secondes. C'était la prérogative du Sanhédrin et du sacerdoce de juger le Messie. Mais le jugement doit être juste, autrement la captivité s'ensuit. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 17, versets 8 à 13. « Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Tu iras vers les sacrificateurs, les lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras, et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel. Et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront, ni à droite, ni à gauche. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple entende et craigne, et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. » Version 8 secondes. Sous la loi, Dieu leur a ordonné de rendre une sentence équitable dans le jugement, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont remis le jugement aux païens et à Pilate. Ils l'ont livré à Pilate dans la cour du prétoire, voire Marc 15, verset 16, le hall du jugement, qui n'était pas le palais d'Hérode, comme nous le voyons à Luc 23, verset 7. Ils ont dit à Pilate que s'il n'avait pas été un malfaiteur, il ne lui aurait pas livré, voire Jean 18, verset 30. Il a donné cette réponse quand Pilate lui a demandé s'il était un roi. Nous lisons « À cette fin, je suis né, et pour cette cause, je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate, qui était cultivé et intelligent à la rhétorique, a dit « Qu'est-ce que la vérité ?» parce qu'il n'était pas encore de la vérité. On doit être appelé par Dieu pour comprendre. Pilate est alors allé à la rencontre des Juifs et il a dit « Je ne trouve aucune faute en lui. Il leur a été donné une chance de reprendre leur jugement malhonnête, et ceux de la bouche des païens, qui méprisaient et considéraient inaptes à marcher dans leur temple. Pilate leur a donné une chance de libérer Christ en leur offrant un choix. Mais la substitution principale de l'histoire a eu lieu ici. Ils ont crié, pas cet homme, mais Barabbas, qui était un voleur. Barabbas signifie fils du père. Le symbolisme était ici que Christ est mort afin que nous puissions être remis en liberté comme fils du Père. Avant que le processus ne démarre, avec toute l'efficacité dont Rome était célèbre, Pilate a essayé de les persuader de nouveau. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 19, versets 1 à 7. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats pressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme !» Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie ! Crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Version 8 secondes. Ils n'ont rien voulu entendre, et ils ont dit qu'il s'était fait le fils de Dieu. Pilate a été alors très conscient qu'il s'agissait d'une dispute religieuse où cet homme était non seulement irréprochable, mais pourrait avoir été un dieu. Car les Romains et les Grecs, comme les Asiatiques, croyaient que les Elohim ou Theroi avaient vraiment le pouvoir d'habiter les hommes et qu'ils apparaissaient comme des hommes de descendance divine. C'était là-dessus que le Sanhédrin l'avait condamné, comme nous le voyons à Matthieu chapitre 26, versets 65 à 66. Voir Lévitique chapitre 24, verset 16. Ce blasphème était prétendument contre le nom de Dieu. Pourtant, il a revendiqué être le fils de Dieu, ce qui est une déclaration vraie, selon le prophète Malachie. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Nous lisons dans le livre du prophète Malachie, chapitre 2, verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? Version 8 secondes. Christ s'est défendu avant même que l'accusation n'ait été portée. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 33 à 38, « Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, « J'ai dit, vous êtes des dieux, si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, quand même, vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi, et que je suis dans le Père. » Version 8 secondes. Cette charge était sans fondement, et elle est provenue de l'ignorance juive de la loi et du plan de Dieu. De la même manière, le christianisme dominant porte aujourd'hui des accusations répugnantes contre les élus. Ils ont conspiré pour les tuer pendant des siècles, comme ils ont fait avec le Messie. Pilate a de nouveau essayé de le libérer avec ses paroles. Nous lisons dans Jean, chapitre 19, versets 8 à 11. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ? » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Version 8 secondes. C'est Dieu qui a donné le pouvoir à Pilate. En conséquence, tout gouvernement sur les élus est autorisé par Dieu. Celui qui nous accuse faussement ou nous livre sous de fausses accusations ou nous juge injustement est coupable d'un plus grand péché. Pilate a cherché à libérer le Messie, mais les Juifs n'ont rien voulu entendre. S'il avait raison, ils étaient condamnés par la loi qu'ils avaient pervertie. Nous lisons dans Jean, chapitre 19, versets 12 à 16. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque. Et environ la sixième heure, Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Hôte, hôte, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ? » Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Version 8 secondes. Le passage de la crucifixion dans Jean est bien connu. Nous lisons dans Jean 19, versets 17 à 22. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui. Un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs, des Juifs, dirent à Pilate, « N'écris pas, roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Version Louis II. Le terme ici pour « un de chaque côté » est en réalité le terme « euteten kai euteten » qui signifie « ici et là ». Cet aspect est examiné dans l'étude « La croix, ses origines et sa signification » étude numéro 39. Pilate a été poussé à écrire ce verset non seulement par l'Esprit-Saint, mais parce qu'il a reconnu que le Messie était innocent et qu'il était le meilleur ou le plus royal parmi cette foule injuste qui cherchait à tuer un homme juste par l'entremise de leur sacrificateur. La prophétie continue à s'accomplir dans la crucifixion. Jean, chapitre 19, versets 23 à 24, nous lisons. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture, « Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. » Voilà ce que firent les soldats. Version Louis II. Cela accomplissait Psaume chapitre 22, verset 18. Nous lisons dans Psaume chapitre 22, verset 1 à 8. Au chef des chantres, sur biche de l'aurore, Psaume de David, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas. La nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient, et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver, et non un homme, l'opprobre des hommes, et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Version Louis II. Nous voyons que les déclarations de Christ sont inscrites dans la prophétie. Au verset 1, nous voyons son cri sur la croix. Psaume 22, verset 8 est cité à Matthieu 27, verset 43, Marc 15, verset 29
et Luc 23, verset 35.
Hébreux 2, verset 12 cite la prophétie à Psaume 22, verset 22. Nous lisons Psaume 22, verset 22 à 31. « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face. Mais il l'écoute quand il crie à lui. » Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre passeront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira, reparlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Version Louis II. D'après ce psaume, nous voyons que Dieu n'a pas détourné son visage du Messie et qu'il ne l'a pas abandonné, comme c'est souvent spéculé à cause de la citation de Psaume 22, verset 1, mais que Dieu l'a sauvé. Hébreux nous montre la raison du sacrifice. Nous lisons dans Hébreux chapitre 2, verset 10 à 18. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Version 8 secondes. L'agneau a été autorisé à être tué parce que, par sa mort, plusieurs recevraient le salut par leur croyance et leur foi. Pourquoi cet agneau de Dieu a-t-il alors dû se départir de sa nature spirituelle préexistante et devenir un homme ne cherchant pas l'égalité avec Dieu comme quelque chose à être saisi? Et s'était-il humilié jusqu'à la mort sur un pieu? Voir Philippiens 2, versets 5 à 8 dans la RSV. Qu'en était-il alors? Dieu désire-t-il un sacrifice, même celui de son propre fils? Non, il ne désire pas de sacrifice. Nous lisons dans le livre du prophète Osée, chapitre 6, versets 4 à 7. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont, comme le vulgaire, transgressé l'alliance, c'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Version 8 secondes. Nous avons aussi vu ce concept dans 1 Samuel 15, verset 22, Ecclésiaste 5, verset 1 et Michée 6, verset 8. Samuel dit que c'est l'obéissance que Dieu veut plutôt que le sacrifice. Cette obéissance est nécessaire pour la vie éternelle. La désobéissance est la transgression de la loi. Or, la transgression de la loi est le péché, et le salaire du péché est la mort. De ce fait, la réconciliation est nécessaire pour la vie éternelle. Pour être réconciliés, nous devons être obéissants à Dieu et à sa loi, qui procède de sa nature. Voir les études Le gouvernement de Dieu, numéro 174, et L'amour et la structure de la loi, numéro 200. Cette obéissance inclut Jésus-Christ. Pour que la création soit réconciliée, Christ a dû être disposé à donner sa vie, à devenir un homme et à être tenté comme nous. Dieu ne voulait pas de sacrifice, il voulait l'obéissance de tous ses fils. Pour être adéquat, pour être notre leader, Christ a dû démontrer qu'il était obéissant, même jusqu'à la mort. Satan n'avait pas une telle obéissance. C'est la fonction de la mort du Messie. Elle n'a pas satisfait une certaine notion perverse de Dieu. La mort du Messie n'est pas non plus une notion païenne non biblique promue suite à une corruption de l'Écriture, comme certains groupes bizarres ont revendiqué récemment. La mort du Messie, par son sacrifice volontaire, était essentielle pour une réconciliation de la création à Dieu, autant la céleste que la terrestre. La seule façon que cela pouvait être fait était en ayant un membre de l'armée abandonner sa position et sa vie éternelle, en grec aion, et devenir un homme mortel. Voir les études d'immortalité, numéro 165, et le but de la création et du sacrifice de Jésus-Christ, numéro 160. Christ a dû mettre en place cet âge, et ensuite être prêt à mourir pour celui-ci. C'est seulement de cette façon qu'il serait adéquat pour le diriger. Ce même test est exigé des élus, et c'est la raison pour laquelle nous avons été éprouvés et tués à l'extérieur du camp, comme Christ a lui-même été mis à mort à l'extérieur du camp. Car nous espérons la cité de Dieu et le gouvernement fonctionnel de Jésus-Christ à son retour sur cette terre en tant que roi victorieux. Nous lisons dans Hébreux chapitre 13, versets 5 à 16, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point. » Et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide et je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est un de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Version du second. Quand Paul a écrit, le temple était entièrement opérationnel. Le sujet de la discussion est la question du sacrifice et de son rôle avec les élus et peut-être les animaux tués. Souvenez-vous, nous sommes le temple de Dieu et ceux qui servent le tabernacle avec ses sacrifices n'ont pas le droit de manger à notre autel. Il a souffert à l'extérieur du camp pour que son sang sanctifie le peuple et non pas pour satisfaire une fantaisie sacrificielle du Père. Tout le système sacrificiel a été mis en place pour indiquer les élus et le Messie comme les leaders du gouvernement de Dieu. Les nombres et le placement pendant l'année avaient une signification spécifique. Dieu n'est pas un sadique qui veut que les gens soient tués. Il veut plutôt l'obéissance à ses lois. Le résultat de la désobéissance est la mort du fait que la vie éternelle ne sera pas conférée à ceux qui désobéissent. C'est pourquoi il y a deux résurrections. Voir Apocalypse 20, versets 4 à 15. La première résurrection et la vie éternelle sont données aux élus par leur obéissance et leur foi en Christ. La foi sans les œuvres est morte, selon Jacques 2, versets 20 à 26. Et par nos œuvres, nous montrons notre foi, selon Jacques 2, verset 18. Nos œuvres sont l'obéissance au Dieu vivant, comme le Messie l'a démontré pour être le premier fruit et le premier-né des morts, selon Colossiens 1, verset 18, devenant un fils de Dieu avec pouvoir par l'Esprit Saint, par sa résurrection d'entre les morts, selon Romains 1, verset 4. Nous pouvons maintenant voir que la crucifixion et la mort de l'agneau ont été le point culminant de toute l'histoire jusqu'à ce point et de toute la prophétie. Ce jour-là, le monde entier et son destin ont reposé sur les épaules de cet unique sacrifice sans péché. Il a donné sa propre vie pour nous parce qu'il est écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » et c'est le deuxième grand commandement. Voir Matthieu 19, verset 19. Cela a été évalué jusqu'au bout car le plus grand amour qu'un homme puisse avoir, c'est de donner sa vie pour son ami, selon Jean 15, verset 13. Car Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. Jean 19, verset 25 à 42 montre la séquence de ses dernières activités comme homme. Son souci était pour sa mère, elle a été confiée à l'Église. Ses autres frères n'étaient assurément pas présents à la crucifixion. Seule sa mère et sa tante étaient près de l'apôtre Jean, à qui il l'a confié. Il devait être noté que Jean semble avoir survécu à tous les frères de Christ. En conséquence, Christ a confié sa mère à Jean, qui survivrait à ses frères et qui en prendrait soin dans sa vieillesse. Jean 19, versets 25 à 27, nous lisons. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Version 8 secondes. Toutes les choses ont été accomplies à part quelques prophéties. Une de ces prophéties exigeait qu'il soit percé. Nous lisons dans Zacharie 12, versets 8 à 14. « En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part, la famille de Chimier séparément, et les femmes à part, toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. Version 8 secondes. Dans cette prophétie, nous voyons que l'ange de Yahovah à la tête de la maison de David devient Elohim, comme ceux de la maison de David sous lui. Alors, ils regarderont celui qu'ils ont percé, et ils pleureront pour lui. Ils ont transpercé l'Elohim qui leur avait été envoyé, et ils pleureront pour lui, comme on pleure pour un fils unique. Aucun autre ne sera envoyé dans le monde. Il était de la lignée de David par Nathan, entre parenthèses, l'origine de Mariam se trouve à Luc chapitre 3, et de la lignée de Lévi par Shimei, entre parenthèses, qui était une autre lignée apparemment de Mariam et d'Élisabeth, la mère de Jean le Baptiste, par leurs grands-parents communs. Nous lisons dans Jean 19, versets 28 à 37. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé, et ailleurs l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Version 8 secondes. Donc, il a été transpercé, et il a rendu l'Esprit Saint. C'était à la 9e heure, ou 15 heures, quand les agneaux devaient être tués. L'obscurité a couvert la terre à ce moment-là, de midi ou la 6e heure jusqu'à la 9e heure, voir Matthieu 27, verset 45, Marc 15, verset 43. Nous lisons dans Matthieu chapitre 27, verset 39 à 54. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama, sabachthani » c'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent, « Il appelle Eli !» Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Version du second. Ce texte donne les séquences de temps impliquées pour les activités dans Jean et fait quelques autres commentaires. Nous voyons dans le texte que quand l'Esprit Saint a été rendu et Christ est mort, le voile du temple a été déchiré en deux. Ici, le vrai but de la crucifixion est démontré physiquement. Jusqu'à ce temps-là, seulement le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le Saint des Saints, et ensuite seulement une fois par an, et seulement avec du sang, ce qui représentait Christ comme Messie et à sa mort à ce point-là. Quand le Messie est mort, il nous a donné accès au Saint des Saints pour que nous puissions aller courageusement devant le trône de grâce et intercéder pour d'autres, comme Christ intercède pour nous. Nous le faisons jusqu'à ce que nous soyons nous-mêmes versés comme une offrande de boisson au Seigneur. La résurrection des saints qui a eu lieu à ce moment-là était du même ordre que Lazare, soit une résurrection à la vie physique. Ils ne sont pas montés au ciel, comme certains adventistes le revendiquent. Après cela, il a été enlevé du pieu et enterré un peu avant que les jours saints commencent. Nous lisons dans Jean 19, versets 38 à 42, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Version Louis II. Il était l'agneau, et il a été placé dans le tombeau, où il resterait pendant 3 jours et 3 nuits, du début du 15 Nissan à 18h, un mercredi, cette année-là, de l'année 30 de la courante. Et il y est resté jusqu'à samedi soir, à 18h, soit la fin du 17 Nissan, en préparation pour son ascension à 9h le dimanche matin, en tant que l'offrande de la gerbe agitée. Fin de la lecture de l'étude, la mort de l'agneau, étude numéro 242.